tout le monde et bienvenue à Droit de parole, qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. Je m'appelle Andréane Lamonde et je suis la vice-présidente aux communications de l'AED et encore une fois cette saison-ci, j'aurai la chance d'animer Droit de parole. Donc avant d'aller à l'épisode de cette semaine, j'aimerais faire un bref retour sur la saison dernière parce qu'on a eu la chance d'enregistrer 10 épisodes qui sont d'ailleurs tous disponibles sur l'application Balado et sur Spotify. Donc je vais vous les présenter un peu et si jamais ça vous intéresse d'aller les écouter à la suite de cet épisode-là, ben vous allez avoir accès. Donc, premièrement, pour le premier épisode, j'avais reçu deux de mes collègues de l'AED, soit Louis et Arthur, et on avait démystifié les études en droit en parlant des différents mythes qui sont parfois associés au baccalauréat en droit. Ensuite, j'ai reçu le comité droit de la santé, j'ai reçu le président de l'Association des étudiants noirs en droit de l'Université Laval, j'ai reçu le club droit et affaires de l'Université Laval avec un avocat et une notaire qui travaillent chez BCF. Par la suite, j'ai reçu notre vice-présidente aux affaires professionnelles de l'AED, Selena, avec Dominique Trudel, qui est la conseillère à l'emploi à la faculté de droit. Et on a parlé de la vie professionnelle en droit. Et selon moi, c'est vraiment l'épisode le plus pertinent pour la majorité des étudiants en droit. Donc, si j'en ai vraiment un à vous conseiller, ça serait celui-là. Par la suite, j'ai reçu le comité droit et enjeux des minorités visibles. J'ai également reçu le comité droit du travail avec Maître Louis Sainte-Marie, qui est un avocat en droit du travail chez Ken Lamar. On a également reçu l'organisme Pro Bono avec Cynthia Brière, qui est une enseignante ici à la Faculté de droit de l'Université Laval et qui est également avocate à l'aide juridique. Et on a parlé de l'accès à la justice et de l'importance de l'aide juridique lors de cet épisode-là. Par la suite, j'ai reçu le comité droit criminel et pénal avec Maître Pierre Gagnon, qui était un avocat criminaliste. Et pour finir, le dernier épisode de la saison, c'était avec le Bureau d'information juridique. Donc, je suis très contente, là, encore une fois, cette saison-ci, pour une deuxième saison, d'avoir encore plein de beaux épisodes à venir avec les comités de notre association étudiante. Donc, pour l'épisode de cette semaine, j'ai décidé de poursuivre la tradition que j'ai commencée la saison dernière et qui est de faire un premier épisode qui est toujours un peu plus léger, un peu plus drôle avec mes collègues de l'association étudiante. Donc, cette semaine, j'ai la chance de recevoir deux de mes très bons amis de l'association étudiante, donc Héloïse Pradette, qui est la vice-présidente aux affaires internes, ainsi que Samuel Godreau, qui est le vice-président aux finances. Donc, avant d'aller plus loin, et de vous parler du sujet de cette semaine. Je vous laisserai vous présenter. Donc, hello, je te laisserai commencer. Fait que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire et de ce qui t'a mené à étudier en droit. Puis aussi, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton poste en tant que VP aux affaires internes dans l'association étudiante.
Bonjour. Alors, moi, c'est hello. Je suis en droit depuis maintenant 2 ans. Initialement, j'ai commencé mes études universitaires en génie. J'ai toujours su que j'aimais vraiment les sciences, mais aussi l'aspect légal. Puis, après avoir essayé un peu, tenté ma chance en génie, là, voir ce qui me plaisait moins, j'ai changé. J'ai fait le saut pour venir à l'Université Laval en droit. Je viens de Montréal initialement. Puis, mon poste au sein de l'AED, moi, c'est de m'occuper plus des comités, en fait, donc les environ 35 comités qu'on a dans l'association étudiante et de leurs événements. Donc, on a presque une centaine d'événements là, annuellement qui se passent sur le campus, hors campus. Alors, moi, je les aide à travers ça dans leur gestion.
Super, merci. Sam, tu peux y aller?
Bien, bonjour tout le monde. Merci, Andréane, de nous recevoir. C'est quand même le fun. On est des personnes gênées de nature, fait que ça va nous permettre justement de nous exprimer. Non. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires avant mon baccalauréat en droit. J'ai travaillé comme chargé de projet dans une firme de développement immobilier, les finances, les chiffres. Ça me passionne. Donc, naturellement, lorsque j'ai eu la piqûre pour la vie associative, je me suis présenté au poste de vice-président aux finances que j'occupe maintenant depuis 2 ans. Puis mon travail, c'est un peu de gérer tout le budget de l'association, le budget des comités, d'être un support justement, puis de donner des outils aux comités afin de les aider justement dans leur gestion financière de leurs propres activités. Puis mon but, c'est de surveiller, de contrôler, puis de m'assurer qu'il y a une gestion saine des finances de l'association.
Super, merci beaucoup. Bien, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation pour être sur le podcast. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Si vous vous rappelez, là, à la session dernière avec l'ARD, on avait démystifié les études en droit. Donc, j'avais demandé sur Instagram, le Instagram de l'ARD, en fait, qui est ard.ulaval, que je vous recommande d'ailleurs d'aller suivre. J'avais demandé aux étudiants de nous dire c'est quoi des mythes ou des idées préconçues qu'il y avait sur les études en droit. Puis finalement, lorsqu'ils ont commencé à étudier en droit, ils se sont rendus compte que c'était vraiment pas ce qu'ils pensaient. Puis on avait réagi à ça, puis ça avait vraiment été très bien reçu par les étudiants. Donc, encore une fois, j'avais le goût d'utiliser les étudiants. Et là, cette semaine, je leur ai demandé de me donner leurs opinions impopulaires ou les hot takes, on peut dire, sur que ce soit les études en droit, la vie universitaire, les activités à l'université, des fois. Donc, je sais que, justement, il y a vraiment des idées préconçues par rapport aux études universitaires. Puis des fois, on arrive puis on se dit « Hey, tout le monde pense pareil. » Puis moi, j'ai vraiment comme une opinion impopulaire par rapport à ça. Et là, ben nous, aujourd'hui, on va tout simplement réagir à ça pour voir est-ce que vraiment c'est des opinions impopulaires ou finalement, il y a plus de gens qu'on le pense qui peuvent penser comme ça.
Puis on y va sans filtre. Tu sais, on dit ce qu'on pense pour vrai.
Oui.
Parfait, Sam.
OK. Donc, ben juste avant de commencer, là, je veux remercier les étudiants qui nous ont envoyé leurs réponses. Puis même si on y va sans filtre, là, on est vraiment content que vous nous ayez donné vos réponses. Puis on essaie quand même d'être gentils, OK? On ne veut pas que les étudiants veulent plus participer. Donc, allons-y tout de suite avec la première. Il y a quelqu'un qui nous a dit « Étudier en droit, c'est pas un aussi gros flex qu'on le pense. »
Ben, c'est vrai, là. C'est vrai. Je pense que...
Moi, je pense que c'est vrai aussi.
Ben, bon, c'est... Mais je sais pas qui pense que c'est un flex. Souvent, j'ai l'impression que c'est les gens qui sont pas en droit qui pensent que c'est un flex d'étudier en droit.
C'est peut-être ce que les étudiants en droit dégagent, justement. T'sais, on parlait justement cette semaine de l'espèce d'aura de... T'sais, de que les étudiants en droit sont snobs ou une espèce de sentiment de supériorité. C'est peut-être ça, justement, que d'autres... que d'autres facultés, d'autres programmes pourraient penser. Mais une fois que t'es en droit, en tout cas, moi, mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup de collaboration, beaucoup de, t'sais, d'entraide. Il y a de la souffrance, il y a de la douleur dans les études en droit. Puis, tu sais, on est comme en équipe, on passe au travers de ça.
Mais aussi, je pense que le côté flex de la chose, moi, je suis vraiment d'accord que c'est pas un aussi gros flex parce que je me suis rendu compte en arrivant en droit que c'est vraiment du monde bien ordinaire qui étudie en droit. Tu sais, on joke bien sur l'élite, là. Mais pour vrai, c'est monsieur, madame, tout le monde qui étudie en droit, là. C'est pas, tu sais, oui, c'est des personnes intelligentes, on va pas se mentir, c'est des gens qui ont une rigueur académique, mais c'est pas, t'arrives pas sur une autre planète quand t'arrives en droit, là. Je veux dire, c'est monsieur, madame, tout le monde, du monde bien normal, là. En tout cas, selon moi.
Puis rigueur académique, je sais pas si c'est tous les étudiants qui ont une rigueur académique, là. Tu sais, je regarde, tu sais, il y a certainement des gens qui... En fait, la plupart qui sont brillants, mais t'sais, la réalité, c'est que c'est vraiment... T'sais, t'en as de toutes sortes, là.
Oui, en effet. OK, on va passer au deuxième. Il y a quelqu'un qui nous a dit « On ne devrait pas pouvoir entrer en droit directement après le cégep. »
Ouh, moi, je suis d'accord.
Ouais.
Ben, peut-être pas qu'on devrait pas, mais je pense qu'il y a vraiment un avantage à pas rentrer en droit dès que tu sors du cégep, comme... Moi, tu sais, j'ai même pas eu tant un gap entre mon cégep puis mon uni, puis ben mes études en droit, mais j'ai vraiment, vraiment comme changé et grandi et appris sur moi. Puis je pense que juste ça, ça va vraiment avoir un impact sur la professionnelle que je vais devenir. Puis ben je pense qu'on est tous différents. Andréane, toi, je pense que t'es rentrée direct après le cégep, puis toi, Sam, t'as eu de l'expérience de travail et tout. Puis on dirait que la maturité qu'on a acquis... Tu sais, on dirait que moi, quand je suis sortie du cégep, là... Après ça, j'aurais pas pu juste faire mon bac en 3 ans puis aller faire mon barreau puis pratiquer. On dirait que j'étais comme trop un bébé, là.
Parce que toi, t'es sorti de ton bac, en fait, de ton cégep, t'es rentré en génie tout de suite. Il n'y a pas eu de session de pause.
Non.
Puis t'as fait combien de temps de génie avant?
J'ai fait une session de génie, une session de Sciences Po, puis après ça, j'étais en droit.
OK. Science pure, science politique, puis...
Exact.
Un petit peu un mélange des deux avec le droit. Moi, je sais pas, parce que... En effet, là, comme tu dis, mon baccalauréat en administration m'a vraiment aidé, puis ça m'a donné de l'expérience par rapport notamment au droit contractuel, en droit immobilier, droit des biens. C'est sûr que c'était des notions, la location, mettons. C'est sûr que c'était des notions qui m'étaient plus familières. Mais par contre, je regarde certains de nos collègues qui sortent du cégep à 19 ans, puis c'est du monde tellement brillant que je me dis pourquoi retarder leur cheminement alors que ces personnes-là, c'est déjà des personnes surdouées, justement, là.
Mm-hmm. Moi, je pense que on ben moi, ayant sorti direct du cégep, tu sais, c'est faisable. Puis, mais c'est vrai que des fois, quand je regarde justement Sam, qui lui a un bac au complet, je me dis... Parce que j'ai l'impression que des fois, là, tu sais, au cégep, t'es comme pressé, tu veux le faire absolument en 2 ans parce que tu veux pas arriver à l'université puis comme être le plus vieux. Puis moi, c'était ça. Là, moi, j'ai fait mon cégep en 3 ans puis c'était le traumatisme de ma vie de me dire, je vais arriver à l'université puis tout le monde va être plus jeune que moi puis je vais comme être la vieille parce que j'ai fait mon cégep en 3 ans place de 2 ans. Puis finalement, je me suis rendu compte que non, là, le 3/4 du monde sont plus vieux que moi, mais aussi que je me dis, ça m'aurait peut-être servi de prendre un peu plus mon temps. Puis, ben, en tout cas, tu sais, je suis vraiment contente d'être rentrée directement en droit, mais moi, je pense que définitivement, les gens qui ont fait un autre bac en droit, ils ont un avantage. Mais je pense que le problème aussi du droit, c'est que t'as comme aucun préalable à part... T'sais, en fait, t'as juste aucun préalable. La seule chose qu'ils regardent pour rentrer, c'est ta cotère. Puis je sais que ben on en a, y a des profs qui nous en ont parlé, là, qu'à certaines universités, il faut comme que tu fasses un peu un test de genre connaissances générales pour voir est-ce que t'as certaines connaissances en politique ou... T'sais, des connaissances que eux autres, ils prennent pour acquis que quand tu rentres en droit, t'es eux, mm-hmm. mais que certaines personnes les ont pas. Surtout si t'as fait sciences nat, puis après ça, t'arrives en droit, t'sais. En sciences humaines, souvent, t'as quand même des cours de politique, de sociologie, psychologie. Fait que j'ai l'impression que t'es peut-être un peu mieux outillé, mais t'sais, si t'as fait des cours de physique puis de chimie au cégep, t'arrives en droit, puis c'est tellement différent qu'il y a peut-être des notions que les profs prennent pour acquis que t'as, puis toi, t'as comme des lacunes là-dedans. Fait que moi, je pense que ça serait peut-être plus de... Je vais pas dire rendre l'admission plus difficile, mais de ratisser plus large que de juste ta cotère.
Mais sentez-vous que le filtre se fait au niveau du baccalauréat? Parce que moi, j'ai comme l'impression que le filtre se fait lors, par exemple, du processus de recherche de stage que tu entres dans le marché du travail. C'est comme difficile pour certains qui ont juste connu le cégep, qui sont entrés directement en droit dans leur livre, d'appliquer ça au monde du travail.
Mais justement, c'est poche. C'est le même. Ouais. Vu que moi, j'ai juste un bac en droit puis que j'arrive direct du cégep, je devrais pas être désavantagée parce que normalement, mon bac en droit devrait être suffisant.
Normalement.
Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça, je pense que peut-être que le fil devrait se faire un peu avant, justement, pour pas qu'au bac, tu dis, hey, j'ai tout fait mon bac, finalement, le monde me dise que j'ai quand même des lacunes alors que j'ai un bac en droit.
C'est vrai, parce que veux pas, c'est compétitif, là, le domaine juridique, surtout le domaine juridique privé. Puis, tu sais, on dit, mais comme tu dis, moi, j'ai fait sciences nat, là. Genre, j'ai jamais eu de cours d'économie de ma vie. J'ai plus de cours d'histoire depuis secondaire 4. Tu sais, il y a comme plein d'affaires de connaissances même générales que j'ai jamais eues parce que moi, je regardais comme les orbitales en chimie organique, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment différent. Fait que c'est pour ça que je pense que oui, il y a un atout à avoir un bac avant ou même un micro-programme, peu importe, un certificat, d'avoir un peu vu autre chose que le droit.
Ouais, puis t'es juste plus mature dans ta vie en général aussi, là. Ça, je pense que c'est jamais une mauvaise chose.
Droit des protons, droit des électrons, hello.
Malheureusement, j'ai pas encore pu appliquer mes connaissances, mais je compte là-dessus.
Excellent.
Bon, la prochaine opinion, c'est... Sam, je sens que ça va te toucher. Fait que je vais te laisser réagir en premier, OK? Tout le monde veut faire du droit corpo pour être un big shot, même si le droit corpo, c'est vraiment boring.
Écoute, là, attends, là. C'est direct au cœur. Je pense que il y a deux volets à ta question.
Okay.
Parce que, à ce hot take-là. Premièrement, je pense que oui, le droit des affaires, c'est big shot. Mais la réalité, on peut pas savoir si c'est boring parce que personne sait vraiment c'est quoi le droit des affaires, là. Tu sais, on a un cours de société par action, on a un cours d'entreprise.
Ah, et puis c'est boring, ces cours-là aussi.
Mais tu sais, on se fait parler justement par les professionnels de la pratique en droit des affaires. Puis je pense que même au sein du droit des affaires, c'est super large ce que tu peux faire. Fait que de dire que c'est boring, je me prononce pas là-dessus.
Moi, je dirais pas que c'est boring, mais je dirais que tout le monde veut faire du droit des affaires sans savoir c'est quoi, justement. Puis je trouve que même c'est un peu comme quand on rentre au bac, là, je sais pas vous, c'était comment dans votre cohorte, mais moi, en rentrant, tout le monde voulait faire du droit international, mais personne sait c'est quoi.
C'est tellement vrai.
Tu sais, c'est comme la tendance. Tu rentres au bac, t'es en droit, puis tout le monde est comme, ouais, moi, je veux vraiment faire du droit international, mais tu sais, il y a 0.001% qui va finir en droit international, là. On sait juste pas c'est quoi. Je pense que c'est la même chose en droit corpo. Puis je pense souvent les gens se retournent vers ça parce que, veux, veux pas, c'est quand même safe comme pratique, le droit corpo. Tu sais, c'est pas un milieu qui est comme vraiment... En danger là, de plus avoir de job, tu sais, on s'entend.
Okay. Je pensais que tu disais safe dans le sens que c'était comme...
Pas relax, là. Non, okay, non. Dans le sens que si tu deviens spécialisé dans du droit corpo, tu vas trouver une job. Mais je pense que c'est ça. Je pense souvent le monde, ils choisissent ça parce qu'ils savent pas quoi faire. Puis tu sais, à titre d'exemple, moi, avant, je disais que la seule affaire que je voulais pas faire, c'était du droit corpo. Parce que justement, je trouvais ça boring. Puis j'étais comme, tu sais, je vois pas l'intérêt. Mais encore une fois, je savais pas c'était quoi. Puis, en réalisant que le droit des technologies, c'était du droit corpo, j'étais comme, oh mon Dieu, gênant. Je vais aller en droit corpo, tu sais. Fait que je trouve que souvent, même pendant notre bac, là, tu sais, moi, j'étais à moitié en ce moment, puis j'ai aucune idée, là, de ce que je vais faire. Fait que...
Ben, moi, tu sais, moi, là, j'ai fait un baccalauréat en administration, travaillé en immobilier. Le droit des affaires, ça me colle à la peau. Puis je me dis, bon, ben, j'ai un intérêt pour le droit des affaires parce que j'ai un intérêt pour le monde des affaires. Mais je me suis rendu compte en travaillant dans un cabinet cet été que j'aime le droit des affaires, mais j'aime aussi le litige commercial qui est directement lié justement au conflit entre actionnaires, etc., puis dans les compagnies. Fait que je me suis rendu compte que j'aime le droit commercial, que ce soit droit des affaires ou que ce soit litige. Fait que là, suite à ça, lequel je suis meilleur, dans lequel je vais mieux me développer, c'est un peu ça qui va choisir dans quoi je vais m'en aller, mais... Ouais.
OK. Là, écoutez, on change complètement de sujet. Il y a quelqu'un qui nous a dit « Être célibataire pendant tes études en droit, c'est vraiment positif.
Hey. » Je pense que c'est quelqu'un de célibataire qui a dit ça. Mais je pense que... Ben, on dirait que ça gosse parce qu'on va être comme nuancé à chaque fois parce que veux pas, c'est des hot takes. Fait qu'on dirait que tu peux dire oui et tu peux dire non.
Ouais.
Mais je pense que selon la personne que t'es, le temps que t'as besoin de mettre dans tes études... Les objectifs que tu as, et surtout ton couple, ça peut être vrai puis ça peut être faux. Tu sais, comme, ben, on peut s'en parler, là, justement, parce que Sam, toi, t'es en couple.
Oui, on salue Noémie, d'ailleurs.
On salue Noémie. Fait que, tu sais, on dirait que moi, en ce moment, là, comme ma charge de travail, je me vois pas dans ma semaine, tu sais, mettre des heures dans un couple. Fait que je pense que c'est positif pour moi de pas l'être.
Mm-hmm. Tu mets-tu des heures à dater?
Non.
OK, mais moi, c'est ça que j'allais dire. Parce que moi, je peux vous dire les deux, parce que moi, j'ai commencé mon bac en couple et là, maintenant, je suis célibataire. Écrivez-moi ça. Mais on dirait que je regarde dans le passé puis je regarde mon horaire d'aujourd'hui puis je suis comme, comment je faisais pour avoir le temps? Mm-hmm. C'est peut-être parce que justement, j'ai adapté mon horaire en fonction que j'ai plus besoin de comme me garder du temps pour mon couple. Mais moi, en ce moment, je trouve que c'est positif parce que j'ai l'impression que... Tu sais, justement, mettons, tu sais, un couple, c'est bien beau, mais ça va pas tout le temps bien. Fait que, tu sais, mettons que là, oh, tu sais, pendant ton couple, pendant une couple de semaines, ça va un peu moins bien, mais tu sais, ça peut peut-être affecter tes études. Si tu t'attends de rester plus tard à l'université, ben tu te sens pas mal parce que, ah, oh, j'avais dit à mon chum que j'allais dormir chez eux ce soir, puis là, j'aimerais ça rester étudier, mais là, je veux pas que ça fasse de la chicane et tout. Mais même si t'es pas en couple, mais que t'es célibataire, mais que justement, tu parles à plein de monde, tu vas dans des dates, moi, selon moi, ça prend exactement le même nombre de temps que d'être en couple. Fait que c'est pas être, être célibataire, mais comme pas être dans le monde de l'amour. Mais je sais pas comment dire ça, mais c'est...
Le monde du dating
oui, c'est ça.
Est un monde qui prend du temps.
Et de l'énergie.
Peu importe que tu sois en couple ou pas.
Oui. Oui, ben moi, je disais ça célibataire ou en couple, mais tu sais, moi, j'ai fait le contraire de toi. J'ai commencé célibataire, puis là, par la suite, je suis tombé en couple. Mais moi, tu sais, une chose, à dater, parler à des filles et tout, c'est sûr que ça prend du temps. Puis, je suis tombé en couple avec une fille qui était au baccalauréat en droit. Fait qu'elle était consciente qu'il fallait avoir des moments d'études, des moments pour relaxer.
Mm-hmm.
Mais c'est pas la réalité pour bien du monde. T'sais, j'ai vu, il y a certaines de mes amies qu'elle avait des... En fait, une fille en particulier, elle avait son chum qui était charpentier-menuisier puis qui comprenait pas justement qu'elle devait passer les fins de semaine puis les soirs à étudier. Fait que ça, ça devait être... Non seulement éreintant en termes de temps, mais en termes d'énergie, de se faire comme remettre justement sur le dos, que se faire un peu culpabiliser qu'elle mettait du temps dans ses études. Fait que, non, il y a des pour et des contre à être célibataire ou en couple en droit.
OK, prochaine opinion. Avoir un stage dans un gros cab, c'est overrated.
Non, c'est pas overrated, pantoute. Non, mais ça dépend dans quel sens. Parce que si tes objectifs de développement personnel et professionnel, c'est de sortir de ta zone de confort, d'avoir plusieurs opportunités, de voir justement plusieurs domaines de droit différents, puis de te développer rapidement comme juriste. C'est sûr que d'avoir un stage, puis de ultimement être employé d'un gros cabinet, ça fait en sorte que tu te développes plus rapidement, étant donné que tu fais plus d'heures. Par contre, ça dépend justement le style de vie que tu veux avoir.
Mais moi, je suis vraiment d'accord avec cette opinion-là, mais c'est ça. Moi, là, c'est là que Sam et moi, on est vraiment dans deux pôles différents parce que moi, j'ai mon stage dans un... ben, pas un cabinet, dans un contentieux. Puis
chez Desjardins.
On va le dire, vert. on salue Desjardins. Mais moi, je pense au... Puis c'est justement, moi, qu'est-ce que tu dis que tu te développes plus rapidement? Moi, je pense que plus ton cabinet il est gros, moins c'est vrai. Parce que quand tu fais ton stage là, puis là, c'est peut-être des idées préconçues, là, mais tu sais, les affaires qu'on entend que c'est genre, c'est le monde qui amène le café puis les sandwichs, là. T'sais, moi, je pense pas que tu te développes en tant que juriste quand tu amènes des cafés puis des sandwichs. Moi, je pense que justement, plus que le cabinet est petit ou plus que tu es au gouvernement et tout, plus que ils te font confiance rapidement puis qu'ils te donnent des dossiers tout de suite. Puis j'ai l'impression que plus le cabinet est gros, plus que c'est long avant qu'ils te donnent des gros bons dossiers.
Hey, hot take dans un hot take, c'est tellement un stéréotype de dire que quand tu es dans un gros cabinet, tu amènes des sandwichs puis du café.
Mais peut-être. Mais
écoute, là.
T'sais, on l'entend quand même, Sam.
On l'entend, mais c'est un pur stéréotype. Je veux dire, j'ai des amis qui ont des stages ou qui ont fait des études étudiants chez, on va les nommer, chez Faskin, chez BCF, chez Norton Rose, chez McCarthy. Puis je les ai pas vus une fois faire du café filtre, là. Non, tu sais, je les ai pas vus, mais ils m'ont pas partagé ça. Ouais. Puis tu sais, c'est la réalité.
Ouais.
Puis moi, tu sais, mon conseil est juste mathématique. Si tu passes 60 heures, 65 heures à faire quelque chose, naturellement, tu vas devenir deux fois, en tout cas, tu vas t'améliorer deux fois plus vite pour la même capacité d'apprentissage qu'une personne qui le fait à 30 heures semaine. Mm-hmm. Fait que c'est de là mon...
Mais je pense pas, moi, que c'est point. Overrated au niveau de ce que ça t'apporte dans ta carrière. Je pense juste que c'est overrated quand les gens regardent les options qui s'offrent à eux. Puis c'est ça de moins en moins parce que, tu sais, on promouvoit full les opportunités en entreprise, au public, tout ça. Puis même les opportunités en dehors du monde juridique. Mais je pense que, ben, de moins en moins, c'est ça. Mais pendant longtemps, les stages en gros cabinet, c'était ça ou rien.
Non, c'est
fait
ça.
Que je pense que ça a été overrated en ce sens-là. Mais je pense que c'est selon, comme ça, on m'a dit, tes objectifs de carrière, puis mm-hmm. même les domaines qui t'intéressent. Tu sais, on va. C'est sûr que si toi, t'as envie d'aller en droit de terrorisme international, peu importe, au gouvernement, à Ottawa, puis tu fais un stage en gros cabinet, ben peut-être qu'en effet, pour ta carrière, c'est pas, tu sais, ce qui se rapproche le plus de ce que tu veux faire. Donc, dans un cas comme ça, ça pourrait l'être. Mais sinon, ça dépend de la personne.
Non. Si on y va, mettons, au niveau du stage, là, on dit c'est overrated au niveau du stage. On s'entend que si tu fais ton stage dans un gros cabinet, ça veut pas dire que dans 10 ans, tu vas être meilleur qu'un autre personne qui a commencé soit en contentieux ou qui a commencé dans un plus petit cabinet mm-hmm. qui, par la suite, s'est développé plus sur le tard qu'il y a d'autres opportunités puis que, par la suite, tu rentres peut-être dans le même cabinet puis que tu dépasses cette personne-là dans la hiérarchie. Là.
En effet. Non, c'est sûr. OK. Prochaine. Une note de passage à 50 %, ce n'est pas assez. Ça veut dire qu'on peut réussir un cours en ayant seulement compris la moitié de la matière.
Hey, peux-tu répéter?
Parce qu'en ce moment, en droit, pour les gens qui ne le savent pas, la note de passage, c'est 50 %. Donc, techniquement, si tu peux passer avec seulement 50 %, ça veut dire que si tu as compris 50 % de la matière, selon la faculté, c'est assez pour dire que tu as passé le cours. Puis là, cette personne-là dit que, en fait, ça devrait être plus que 50 % parce que ça n'a pas d'allure de passer un cours en ayant seulement compris la moitié de la moitié.
Moi, c'est vrai que c'est bas 50 %. Tu sais, quand c'était quoi? Au secondaire, c'était 60.
Ouais. 60. C'est cégep aussi.
Ouais.
Tu sais, on dirait que moi, je me vois aller, OK? Exemple, dans un de mes derniers examens, OK, j'ai eu 68.
Mm-hmm.
Puis, je pensais que je comprenais bien. Fait qu'imaginez à quel point je comprendrais pas la matière si j'avais 50, moi, à cet examen-là. Tu sais, là, j'avais l'impression que je comprenais. Puis, j'ai quand même eu 18 % en haut de la note de passage. Fait qu'on dirait que 50 % Tu sais, ça dépend des cours, là, mais je trouve pas ça difficile à obtenir.
Ouais, mais moi, je pense que je peux comprendre dans l'optique où, en droit, il y a tellement de matière, il y a tellement de décisions, il y a tellement d'articles que si toi, là, mettons, je sais pas, là, on a lu 40 décisions dans un cours, là, puis mettons que les questions qui t'ont posé, il y avait 20 décisions possibles avec lesquelles tu pouvais justifier ta réponse. Puis toi, les 20 décisions que tu avais vraiment bien comprises, c'était les 20 décisions qui n'avaient pas rapport dans l'examen. Moi, je pense que c'est plus pour ça qu'ils ont fait ça, parce qu'ils se sont dit, il y a tellement de matière que c'est impossible d'évaluer la personne sur l'ensemble de la matière. Fait que si toi, tout ce que tu as compris n'était pas à l'examen, c'est vraiment chiant de te faire couler à cause de ça. Fait que moi, je pense que c'est plus ça la mentalité de pourquoi c'est seulement 50 % de notes de passage.
Moi, j'essaie de me faire une opinion par rapport à ça, puis...
T'en as pas?
J'en ai pas.
T'es juste content que ce soit 50?
Non. C'est vraiment pas ça que je vise.
Mais c'est vrai que 50, c'est bas. Mais en même temps, est-ce que 60, ça serait trop haut? Peut-être.
Est-ce que ça ferait en sorte... Tu sais, je me pose la question. Tu sais, des fois, un parcours en droit, c'est... Tu sais, il y a plein d'embûches. Tu sais, mettons... Oui, OK, 50%, si t'as compris 50% du cours, c'est rough. Tu sais, t'as peut-être pas...
T'as clairement des petites lacunes.
Tu sais, t'as des grosses lacunes. T'as des grosses lacunes, on va se le dire.
Pas... J'essaie de dire peut-être des petites lacunes.
Non, non. Tu sais, t'as 50% dans un cours, t'as clairement pas compris quelque chose dans ce cours-là. Ouais. Par contre, tes embûches dans le parcours, justement, d'un étudiant en droit, ça peut arriver. Puis que ce soit des embûches, non seulement au niveau de la compréhension, mais peut-être au niveau familial, au niveau social, puis tout... Puis une personne peut avoir, mettons, à l'examen intra, 80, mais que, rendue au final, elle fait complètement une espèce d'une crise de panique, quoi qui fonctionne pas, puis tout, puis que, ou pour quelconque la raison, elle a 30%. Et ça fait en sorte que, peut-être qu'en dehors du cours, ou mettons, quand elle regarde, elle discute de la jurisprudence, quand elle discute des lois, elle discute de la doctrine, elle comprend plus le cours, mais que pour cet examen-là en particulier... Elle l'a coulé, ça ferait en sorte qu'elle elle devrait refaire tout le cours au complet. Je sais pas si ça serait une valeur ajoutée pour son parcours.
Puis c'est aussi que c'est quand même rare les cours qu'il y a juste un cours par rapport à ça.
Oui, c'est sens, ça que j'allais dire.
Mettons, tu sais, droit du travail, puis après ça, tu as santé, sécurité au travail. Fait que je me dis, mettons que tu n'as pas tant bien compris dans ce cours-là ou que justement tu as eu une moins bonne note. Ben c'est pas « Ah, ben t'as vu cette matière-là une fois dans ta vie, puis maintenant, bonne chance pour l'apprendre par toi-même. » T'as toujours comme l'occasion de faire d'autres cours dans ces sujets-là qui vont approfondir un peu tes connaissances, puis tu veux, tu sais, tu peux te reprendre à comme comprendre la matière-là, je pense.
Oui, moi aussi, je pense, puis c'est ça, c'est ça va passer ou ça va casser à un moment donné, parce que tous les cours sont quand même liés, le veux-veux pas. Si t'as rien compris d'obligation 1, ben tu vas quand même trouver ça plus dur, obligation 2, puis à un moment donné, ça va te rattraper si t'as pas mis... T'sais, un effort nécessaire pour compenser le gap mm-hmm. que tu avais en ayant, par exemple, juste compris 50% là, de ton cours.
Puis aussi, tu sais, en tout cas, par expérience, les moyennes, c'est souvent t'sais, dans les 60 ou les faibles 70. Fait que je me dis, mettons, monter la note de passage à 60, ça veut dire que les moyennes seraient genre 6% au-dessus de la note de passage, ce qui, selon moi, est vraiment faible.
Mais des fois, elle est en dessous de la note de passage. Oui,
ouais, c'est ça.
C'est un autre problème.
Ouais. OK, ben écoute, la prochaine, on va faire du pouce sur ce qu'on vient de parler. Il y a quelqu'un qui nous a dit « C'est absolument faux de dire que les notes, ce n'est pas si important que ça. »
Eh, bah boy, c'est... c'est tellement vrai.
T'sais, mais moi, je pense que l'énoncé... Vas-y, mais moi, je pense que l'énoncé devrait être allongé sur « C'est absolument faux de dire que les notes, ce n'est pas si important si tu veux faire un stage dans un gros cab. » Moi, je pense que l'énoncé devrait être ça.
Ben... Pas juste ça, parce que moi, je pense que, tu sais, on est dans une espèce d'ère où ce que on prône l'équilibre de vie, on prône justement d'enlever du stress sur le dos des étudiants, puis au niveau de...
Santé mentale,
anxiété, etc. Puis c'est vrai, tu sais, quand on a des rencontres avec la direction qui dit « Félicitations, vous êtes rentré en droit. Félicitations, maintenant, la cotère compte plus. » Maintenant, tu sais, si ça peut arriver de couler des examens, ça peut arriver d'avoir des difficultés, c'est pas grave, on s'en sort. Pis c'est tout vrai. Par contre, si toi, en tant qu'étudiant en droit, puis en tant que personne, tu veux justement performer, tu veux travailler dans un gros cabinet, tu veux avoir des belles opportunités, ben veux pas, ça commence jour 1, première session, parce que tu fais, par exemple, la course au stage. Course au stage, tu l'as fait à ta quatrième session. Les notes qui sont prises en considération, c'est la session 1, 2, 3.
Mm-hmm.
Fait que oui, ça se peut que tu te plantes première session ou peut-être un cours, mais t'as pas le choix de te reprendre le deuxième, la troisième session puis de vraiment te différencier puis te distancer. Puis ça, c'est juste au niveau des cabinets, mais pousse encore plus loin. Il y a les cabinets, il y a les stages à la magistrature que c'est au niveau des notes. Ça, au niveau, quand tu fais ça, je veux dire, tu te distances parce que tu fais de la recherche avec un juge, soit à Cour supérieure, à Cour du Québec, à Cour d'appel. Je veux dire, ça fait partie du développement d'un juriste, puis ça part des notes en première année, deuxième année.
Mm-hmm.
Sinon, les concours de plaidoirie, Pierre-Basile Mignot. Tu sais, fait que, oui, si tu veux avoir l'opportunité d'avoir
de quoi
accès
pour
à ça,
Ben, parce que ces choses-là,
c'est important,
avoir notes, fait un stage à la magistrature, des concours de plaidoirie, c'est aussi ce qui va comme bonifier ta candidature quand tu vas arriver à la course au stage, ou en tout cas, t'sais, pour te trouver un emploi ou un stage. Là, c'est des choses qui remplissent ton CV puis qui paraissent bien. Puis ces choses-là sont seulement accessibles si tu as moindrement des bonnes notes.
Ben c'est ça. Puis non seulement au niveau du CV, mais au niveau du développement, je pense sincèrement que tu apprends beaucoup plus dans un stage à la magistrature que de faire un cours magistral en classe.
Mm-hmm.
Fait que, oui, tu sais, faut déstresser les gens, mais faut les conscientiser, si c'est ça tes objectifs, que c'est important d'avoir des bons résultats.
C'est vrai. Mais, mettons, pour les gens qui seraient stressés par rapport à ça, je dois vous dire que, moi, mon stage, ils m'ont même pas demandé mon relevé de notes.
Non, c'est ça, tu sais. Puis c'est vrai, là. C'est vrai, tu sais. Ça dépend de ce que tu veux.
Ouais.
Ça dépend de ce que tu veux.
Voilà.
Mais c'est pour ça que t'en as expérience aussi. Oui. Toi, Andréane, t'as pas juste cogné à la porte chez ton contentieux pour dire « Hey, j'aimerais ça avoir un stage », puis ils t'ont pas demandé ton relevé. Il y a vraiment d'autres moyens aussi, c'est vrai. Mais justement, pour avoir accès à toutes les opportunités, même si, en bout de ligne, on les choisit pas, les notes, c'est important.
Ouais. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, je prône vraiment le fait que la personnalité, c'est tellement important. Puis, tu sais, on en parle souvent. Moi, je pense que il y a comme une étude qui est sortie que quand tu fais, mettons, au-dessus de, je vais dire, 80 000 par année, là, tu sais, l'indice du bonheur, il change pas que tu fasses 80 000 mm-hmm. ou 200 000. Ben moi, je pense que rendu au-delà de genre 3,4, 3,5 de cote, là, ils sont tous intelligents, ils ont tous compris la matière rendue. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a comme un sweet spot qu'au-delà de ça, il y a plus de différence. Mais c'est quand même vrai que dans un contexte de course au stage, si les deux personnes à personnalité égale, le cabinet doit trancher, mais qu'est-ce qui va trancher? C'est définitivement la cote. Est-ce que, selon moi, personnellement, ça devrait être ça? Peut-être pas, mais la pratique, c'est ça qui se fait.
C'est la réalité.
Mais c'est ça.
Puis si jamais il y a des gens des cabinets qui nous entendent, là, arrêtez de vous cacher, mettez-les les cotes minimales pour essayer de le dire aux étudiants. Oui. Parce que
on le sait que c'est comme ça que ça marche à nous.
Ben oui, ouais. Puis l'incertitude... C'est encore plus anxiogène que le fait de dire je tends. Tu sais, c'est bien pire de ne pas savoir c'est quoi la cote minimale pour la course au stage.
Que de savoir puis de ne pas l'avoir.
C'est ça. Ouais. Que de t'essayer, de souhaiter puis de mettre tous tes efforts, de t'investir là-dedans alors qu'au final, tes chances sont plutôt minces.
Oui, c'est sûr. Donc, on va aller pour une petite pause publicitaire et on va revenir par la suite pour d'autres opinions impopulaires. Donc, on est de retour à droite parole et on va continuer avec les opinions impopulaires que les étudiants nous ont données par rapport aux études en droit. Donc, il y a quelqu'un qui nous a dit cette chose très drôle. Toutes les questions ne sont pas bonnes à poser en classe.
Ah, je pense que c'est 100% vrai.
Tu sais, les profs qui essayent d'être fins, gentils, il n'y a pas de questions niaiseuses. Tu sais, allez-y, interrogez-vous. Parfait. Interroge-toi, parfait. Mais avant, lis ta loi, lis la jurisprudence, lis ce que la doctrine dit, puis par la suite, pose des questions. Puis je vais te dire quelque chose. J'étais peut-être un de ces étudiants-là en première année. Tu sais, de par ma curiosité, je voulais avancer le débat, puis tout, mais des fois, tu sais, tu poses des questions, tu veux interagir en classe, tout. Hey! Ta réponse était à l'article 937, là.
Mm-hmm.
Fait que, toutes les questions ne sont pas bonnes à dire.
Je pense que les questions de compréhension, je dirais pas qu'il y en a des mauvaises si t'essayes. Mais moi, tu sais, c'est quand la personne, elle se force pas, elle fait pas ses préparations, elle fait pas ses lectures, elle fait rien. Mais après ça, elle pose des questions. Alors que, tu sais, le reste de la classe a pris le temps de le faire. Au pire, va voir le prof après.
Ouais.
Mais si c'est vraiment, tu sais, un concept qui est expliqué sur le fly puis que quelqu'un a mal compris, je pense pas que ça va être considéré comme une question niaiseuse. Je pense que c'est quand la question, c'est soit parce que tu t'es mal préparé, parce que tu te forces pas, parce que tu portes pas attention, ça peut être une question niaiseuse.
Puis à l'opposé, quand les gens veulent flex, qu'ils se sont tellement préparés.
Oh non, ça, je déteste.
Là, ils posent une question qui a comme zéro rapport, mais ils veulent juste montrer qu'eux, ils en connaissent tellement plus. Je suis comme, c'est tellement pas personnel dans le cours. Ça fait pas... Ça, genre, ça n'apporte rien au débat. Ça, je sais pas, moi, ça me...
Je pense que ça m'irrite parce qu'il fait ça.
Je ris, là. Le pire, c'est que qu'est-ce qui est ironique, c'est que c'est mon hot take, là.
Mais, on avait dit que ça restait... Confidentiel,
mais... je dois le dire. Là. La transparence, c'est mon modo. Mais... Non, non, mais il y a eu des quelques petits débordements en droit des biens avec Silvio là, sur le démembrement du droit de propriété. Là. Hey, on partait sur les débats doctrinaux, je suis désolé. Là. Faut dire qu'on était en COVID, hein. J'avais pas beaucoup d'interactions sociales.
T'en profitais pendant ton Zoom.
Hey, mon 3 heures, là. Oh, je peux parler à du monde, je suis pas enfermé dans mon condo. Fait que je pardonne, disons, les gens qui ont étudié à 100% à distance. On avait tous et toutes besoin de parler à un moment donné.
Ouais. Mais tu sais, là, on est revenu en présentiel, puis comme... Mais tu sais, je pense que c'est surtout peut-être... Les gens, des fois, sont comme pas patients, puis ils veulent savoir tout de suite. Tandis que s'il y a quelque chose que t'es pas sûr de comprendre, attends la fin du cours. Après le cours, va feuilleter ta loi, va voir si t'as pas fait tes lectures de doctrine, va faire ça. Puis si là, tu sais, rendu là, quand t'as fait toutes les t'as cherché toutes les ressources par toi-même... Là, poser la question. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gens, ils lèvent la main parce qu'ils veulent savoir tout de suite. Puis je suis comme, tu sais, t'aurais clairement pu prendre 10 minutes de ton temps, puis tu l'aurais probablement trouvé la réponse.
Ouais. Ou, ben, en tout cas, tu sais, c'est vrai ce que tu dis, mais je fais encore un retour de quand on était à distance 100%, c'est qu'il n'y en avait pas de à la fin du cours.
Ouais, non, c'est ça. C'est oui, oui.
Le Zoom fermait, mettons, le prof avait un rendez-vous, quoi que ce soit, ben.
Sam, il essaie de justifier ses comportements dans les zooms de première année, on dirait.
J'essaie d'excuser, là, tu sais, mon propre tech, mais bon.
Oh, parfait. OK, le prochain. Travailler pendant tes études, c'est vraiment un must pour ton développement personnel.
Oh my God, moi, je suis vraiment une fille de job. Je dis fois mille. Moi, j'ai une job ou deux jobs en même temps que mes études. J'aime mieux, par exemple, faire un parcours légèrement plus long ou sinon un peu réaménagé et travailler en même temps. Puis pas, en fait, même pas au niveau de l'argent. Comme moi, j'habite encore chez mes parents. C'est vraiment pour me changer les idées, un, parce que les jobs que je choisis, j'ai choisi parce que je les aime, pour ce que ça m'apporte aussi au niveau, tu sais, social et tout. Puis aussi juste pour comme l'enrichissement, parce que je pense que t'apprends vraiment autre chose. Puis que ta job, elle soit reliée ou pas au droit, je pense que c'est vraiment juste positif. Puis t'apprends à te connaître, t'apprends tes méthodes de travail. Puis moi, je suis le genre de personne que si je suis pas assez occupée, je fais rien. Fait qu'il faut que, tu sais, en ayant des jobs, ça m'oblige à me dire, OK, ben là, je suis obligée d'étudier à ce moment-là parce que je travaille après.
Ouais, puis ça, tu sais, en effet, puis quand t'es dans le jus, ça fait en sorte que, tu sais, t'arrêtes jamais, puis, tu sais, justement, au final, t'es meilleur à l'école. Mais par contre, faut pas que ce soit fait au détriment de tes études.
Pis
ça, c'est
ça.
Tellement Brigitte Chagnon qui... On salue ma mère. Faut pas que ça soit au détriment de tes études, mon grand. Puis c'est vrai, parce que, tu sais... Ça m'est arrivé justement quand j'étais en administration. Tu sais, moi, je suis parti en administration. Ah, oh, je fais 6 cours par session, 3 cours d'été. Je finissais en 2 ans. Papa, je travaillais 35 heures à la cage comme serveur. Hey, je faisais de l'argent, ça allait bien. Mais au final, je brûlais la chandelle par les deux bouts. Là. Tu sais, il fallait que je prenne mon pouls un peu. Puis je me suis rendu compte qu'au final, peut-être que c'est mieux de plus prendre son temps, d'y aller plus modérément. Puis par la suite... c'est d'avoir des bonnes notes, parce que cette note-là, on revient encore aux notes, c'est pas si important, elle est greffée à toi. Là.
Ouais.
Je parle comme si j'avais vraiment des notes de...
Sam a dit code de 4.33.
Mais je pense, comme Sam dit, l'enjeu aussi, c'est le nombre d'heures.
Ben c'est ça, parce que tu sais, Hello, tu dis, moi, si j'ai rien, genre si j'ai pas acheté de choses, je fais rien, mais faut pas se rendre, puis moi, ça m'est arrivé aussi, faut pas que tu te rendes que t'en as tellement que ça te tente plus de rien faire non plus. Mm-hmm. Puis moi, à un moment donné, je suis arrivée à un point que c'était ça. J'étais comme, je regardais mon agenda, puis j'étais comme, c'est tellement anxiogène, j'ai tellement, justement, avec mon travail et tout, je vais juste comme rien faire de tout ça parce que j'en ai trop, puis je sais même pas par où commencer. Fait que c'est un juste milieu. Tu sais, un 10-12 heures, moi, je pense que c'est parfait.
Ah,
puis,
vraiment.
Tu sais, moi, ma première session, j'ai pas travaillé du tout, puis ça m'a rien. Tu sais, j'avais plus de temps, mais j'avais plus de temps pour faire quoi, tu sais?
Ben, entraîner, dormir. Ouais, c'est sûr que si tu rentres sur le TikTok, les heures passent vite.
Mais je pense que c'est même pas parce que t'as... Ben, en fait, tu le sais, Sam, c'est pas parce que t'as un job que tu vas mettre de côté tes entraînements puis tout. C'est vraiment juste, je pense, apprendre à gérer différemment ton temps parce que t'as plus de contraintes, finalement, dans ton horaire.
Ouais. Une chose que j'aime, mettons, c'est maintenant, je travaille plus comme dans la restauration, c'est de travailler dans un domaine qui est connexe à tes études. Ça fait en sorte que tu peux appliquer justement ce que tu apprends à l'école dans ton travail. Puis ça fait en sorte que je trouve, en tout cas, depuis que je fais ça, je suis comme un meilleur étudiant aussi.
Oui, mais non. Parce que moi, mettons, je travaille dans... genre dans un contentieux, justement. Puis j'aime vraiment ça parce que, justement, ça, je me développe. Tu sais, c'est con, mais on dirait que j'avais jamais réalisé que, comme le code civil, tu l'appliques dans la vraie vie puis pas juste dans tes cours. Mmh. Tu sais, moi, quand genre, je fais des dossiers, puis là, ils sont comme conformément à tel article, puis je suis comme... Les gens utilisent ça dans la vraie vie.
Oui, oui, on étudie quelque chose qui
va... Oui, c'est ça.
C'est concret, là.
Oui, mais avant, quand j'avais une job qui était pas reliée au droit, on dirait que c'était comme ma pause de pas être là-dedans, tandis que maintenant, j'ai l'impression que je suis constamment dans le droit parce que même quand j'étudie pas, toutes mes choses que je fais en dehors de l'école, c'est quand même relié au droit.
Tu travaillais où?
Chez Desjardins, mais dans un... pas dans un truc juridique.
OK, je comprends.
Mais je suis quand même d'accord avec toi parce que justement, moi, ma job, j'aime ça que ça soit une pause de ce que j'étudie. Puis je me suis trouvé une job que j'aime full, puis j'aime mon milieu de travail, puis même mes conditions, puis juste la culture de ma job. Puis ça n'a aucun rapport avec le droit, là. C'est en retail. Fait que tu sais, c'est vraiment juste, moi, une autre vibe que je vais chercher là. Puis en même temps, mon autre emploi, qui est à la faculté de droit, mais qui n'a aucun lien avec le droit, ben ça aussi, ça me donne une pause, tout en étant quand même, tu sais, avec des gens qui sont du milieu juridique.
Ouais.
Fait que moi, ma job, je l'utilise comme pause, je pense.
Ouais. Puis ça fait en sorte aussi que... T'sais, on parlait justement quand tu sors du cégep, etc., l'expérience que tu te fais, ton espèce de bagage est souvent lié à ta job là, aussi. Fait que...
C'est un plus. Puis, ben, je pense que, en fait, pas je pense, là, les employeurs le disent. T'sais, si c'est quelqu'un que tu vois qui réussit à comme, bien gérer de multiples affaires en même temps, des implications, par exemple, de la job puis de l'école, c'est quand même un plus de voir cette maturité-là dans un candidat que quelqu'un qui n'a jamais travaillé puis, par exemple, qui a tout mis son temps dans l'école.
C'est vrai. Prochaine. Les intégrations, c'est overrated.
Ben non. C'est underrated.
Ah, hey, moi, j'allais dire over... Comme, je trouve qu'il y a trop de hype et de stress du résultat de tes intégrations.
Ouais, moi aussi, c'est exactement ça que j'allais dire. Je trouve qu'il y a la pression de dire, tu vas voir, la semaine des intégrations, c'est là que je me suis fait tous mes amis.
Tes meilleurs amis, tu vas les trouver là.
Moi, personnellement, c'est vrai. Mais... genre, j'ai l'impression que, mettons, j'étais sortie de là, puis nous, Sam, je veux dire, nos intégrations, là, c'était comme une journée sportive dans un parc un samedi après-midi, c'était tout parce qu'on est rentrés pendant la COVID. Là.
C'est ça.
Mais imagine, tu sais, pour, mettons, les gens qui sont rentrés cette année, là, si ça arrive que toi, dans ton équipe de 10 personnes, sur les 250 personnes qui sont rentrées au bac, c'est pas tes BFF, puis tu vois que dans d'autres équipes, c'était des gens qui avaient des affinités parce que le hasard a fait que les personnes avec des affinités ont été jumelées ensemble, comment tu te sentirais... que là, tu te dis, bon, ben ça y est, je me suis pas fait d'amis à mes intégrations, fait que pendant 3 ans, j'aurai pas d'amis dans mon bac.
Non, attends. OK, je comprends comment vous voyez. Comme si les intégrations, c'était une finalité. Si tu sors de tes intégrations, non, ça, c'est pas vrai. Tu peux faire des amis dans tes cours, tu peux faire des amis dans les parties, dans les activités, tu vas avoir 1000 autres occasions de te faire des amis. Par contre, les intégrations, quand que tu y vas, tu y participes, même si tu t'es pas fait d'amis, tu as des visages que tu vois et que tu reconnais. Fait que tu arrives dans tes classes de 50, 90 personnes, puis tu reconnais du monde, puis tu peux jaser, puis tu as vu, ah, ben, il s'est passé telle affaire, puis tout. Pis ça fait en sorte que justement, tu sais, ça crée la cohésion, même si tu t'es pas créé tes meilleurs amis. Par la suite, c'est peut-être des amis d'amis, là, tu le vois dans un party, puis c'est là que tu développes des amis.
Je pense que les intégrations. Faut arrêter de voir ça comme tu vas trouver tes meilleurs amis à vie puis ça va être tes demoiselles d'honneur, genre. Mais plutôt que tu te crées des contacts. Parce que comme Sam, tu dis un peu, là, tu sais, moi, rentrer au bac, je connaissais personne dans le bac. Puis veux pas, là, en ce moment, tu sais, les gens avec qui je suis le plus proche au bac, c'est pas nécessairement des gens qui étaient dans mon équipe d'intégration, mais juste, tu sais, la deuxième semaine, là, de quand je suis arrivée dans mes cours, de reconnaître les faces à deux personnes puis de pouvoir dire hey, « salut » puis aller m'asseoir à côté de ce monde-là, veux pas, ça a comme créé un contact. Puis depuis ce temps-là, tu sais, c'est des gens que je connais puis que je salue sans nécessairement que ça soit mes meilleurs amis. Puis je pense que c'est ça, la valeur ajoutée que les intégrations peuvent avoir sans nécessairement à ce qu'on s'attende à ce que tu trouves les 5 personnes avec qui tu vas passer toutes tes journées du bac.
Ouais. Mais on s'entend qu'il faut y aller. Il faut absolument y aller aux intégrations.
Oui.
C'est une erreur monumentale de ne pas aller aux intégrations.
Oui, je pense que c'est une erreur de ne pas y aller.
Même si, parce que tu sais, je sais qu'il y a des fois, le monde, ils disent « Ah, oh, c'est juste une semaine de brosse », mais... Ben, c'est quand même vrai, là. Mais non, c'est vraiment... Non, moi, je pense qu'il faut y aller aussi. Puis mm-hmm. au-delà des personnes que tu rencontres dans le sens de tes premières années, tu sais, moi, je pense que le meilleur exemple, c'est que mon intégratrice, même si je n'avais pas vraiment eu d'intégration, c'était la chef mentor du centre de soutien. Puis moi, ça m'avait comme full aidée parce qu'après ça, c'était comme naturel pour moi d'aller au centre de soutien parce que c'était comme... Je l'avais rencontrée là, puis elle nous en avait full parlé. Puis là, moi, pendant une session, j'allais tout le temps la voir. Fait que même pour les plus vieux, les personnes que tu rencontres, ça t'ouvre un peu des portes. Puis t'es comme... Je trouve que ça rend comme les plus vieux plus accessibles. Parce que tu sais, des fois, quand tu rentres dans un nouveau programme, t'es comme, oh my God, tout le monde se connaît, puis moi, je suis comme le petit nouveau. Fait que là, de voir que les plus vieux sont... Tu sais, ils sont intéressés à toi puis à te rencontrer, ben c'est comme ça rend ça moins intimidant. Je pense aussi quand tu arrives dans les cours puis que tu vois comme des gens de deuxième puis de troisième année ou de connaître, mettons.
Puis les deuxièmes puis les troisièmes peuvent comme te transférer leur sagesse parce que tu évolues grandement en un an en droit, là.
Oui, c'est vrai. Parfait. Donc, la prochaine. Tu n'as pas vraiment besoin de faire tes lectures quand tu étudies en droit. Moi, je pense que c'est faux, là. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses tes lectures, là.
T'as pas le choix de les faire minimalement, mais il y a des gens qui me disent, là, tu sais, qui ont des excellents résultats, qui font pas leur lecture.
Oh, mais pas leur lecture, genre, ils ouvrent leur code pour la première fois à l'examen.
Il y a du monde brain comme ça, là. Il y a du monde que, justement, je sais pas comment ils ont la capacité de saisir ce qui va être posé à l'examen, mais ou une capacité de recherche dans le code civil pendant l'examen.
Mais c'est ça, moi, je suis comme, au moins, la loi, faut que tu l'aies lue une fois, il faut que tu saches que l'article existe en quelque part. Tu peux pas arriver à l'examen puis comme déballer ton code civil de son plastique.
Non, non, c'est ça.
Donc, moi, je suis controversée. Moi, je suis la personne qui croit fondamentalement que j'ai pas nécessairement besoin de faire mes lectures dans la majorité des cours. C'est vrai qu'il y a des cours qui sont un peu plus des exceptions, genre droit consti, mais même en droit consti, je faut pas que je dise ça, mais tu sais, même avec juste des résumés, on peut très bien s'en sortir. Puis moi, je suis le genre de personne qui n'ouvre jamais sa doctrine. Toutes mes doctrines sont neuves. Il n'y a rien de souligné à l'intérieur. Je n'ai pas un seul post-it. Puis je suis aussi la personne, ça, c'est pas bon, qui ne lit aucun article. J'ai juste, tu sais, on dirait que, comment moi je le comprends, j'apprends la matière, j'apprends ce qui se dit dans l'article, mais... Tu sais, je vois mes amis, puis tu sais, par exemple, avant le cours, ils vont aller lire les articles sur lesquels on va parler, parce qu'elle veut pas, c'est dans le plan de lecture. Mais tu sais, on dirait que moi, ça m'apporte pas plus faire ça. Mais je pense, en fait, pas je pense, là, c'est vraiment, je dis zéro ça en conseil, parce que je pense que tout le monde apprend full différemment. Puis par exemple, j'ai des amis pour qui sont obligés d'aller en classe, puis sont obligés de s'asseoir première rangée. Sam, je pense que toi, t'es de même.
Sam,
première rangée, t'es en avant. Moi, là, si je vais en classe... Honnêtement, ça prend tout pour que je me concentre sur ce qui se passe en classe. Fait que, je pense
que... Mais là, tu vas pas en classe, puis tu fais pas tes lectures. Donc, explique-moi.
Puis t'as des bons résultats.
Ça, explique-moi.
Non, non. J'essaie d'aller en classe le plus souvent possible. Puis, moi, là, je suis la personne qui me paye trop d'argent pour faire ses notes de cours au bureau en gros, OK? Puis mon document de notes de cours, tout repose là-dessus. Puis... en allant en classe et avec l'entraide de mes amis, puis je fais des lectures, mais juste exemple, des résumés. Moi, je vais, tu sais, jamais je vais aller lire ma juriste puis comme au complet la surligner et tout. Je m'en vais comme plus comprendre les concepts puis merci Sokige, on les salue.
Bon, ben, c'est vrai. Puis tu sais, ben, continue ce que tu disais.
C'est ça, mais bref, tout ça pour dire que comme moi, mais mon document, tu sais, j'ai mis leur document de notes de cours, OK, c'est genre un trombone sur tout plein de feuilles amochées ensemble, puis tout, puis tu sais, tu sais pas trop qu'est-ce qui est où. Moi, là, mon document, là, on dirait un livre que genre je pourrais vendre à la bibliothèque, là. C'est comme, tu sais, j'ai toutes mes sections d'identifier, j'ai comme 50 post-it, des codes de couleurs, puis mes articles sont copiés-collés dedans. Fait que j'ai même pas besoin d'ouvrir mon code, tout est dans mes notes. Honnêtement, ma vie, ma réussite scolaire en entier, là, repose sur mes deux cahiers boudinés que je fais pour chaque cours, chaque session. Puis, ça marche.
Bon,
fait que ben, je pense que ça dépend vraiment du monde.
Mais il y a un travail de synthèse. Il y a un travail de synthèse à faire. Ça, c'est absolument important.
Sinon, on s'en sort pas.
C'est ça. Mais, tu sais, faut pas tout lire la doctrine parce que tu te noies dans
ben
la
oui,
doctrine.
C'est
si
ça.
Tu dis, mettons, tu sais, il y a des profs qui se lâchent
lousse.
Puis, tu sais, c'est des 100 pages, 110 pages, 120 pages. Fait que ça fait en sorte que non seulement ça te cale dans ce cours-là, mais dans tes autres cours parce que tu n'as plus le temps de lire les décisions et tout. Fait que non, je pense qu'il y a un travail de synthèse à faire. Moins, tu sais, less is more. Mais par contre, si tu veux apprendre, faut pas trop couper
les
coins ronds. Là.
Mais je pense que... Excuse, ben tu peux continuer.
Ben, je pense qu'une chose, là, c'est... Puis je suis désolé, le règlement 30.1, là, mais de l'Université Laval sur le partage de notes. J'encourage le monde à aller chercher des notes des plus vieux pour un cours parce que ça fait en sorte que, malheureusement ou heureusement, on écoute plus en classe mm-hmm. parce que on est plus concentré sur ce que le professeur, la professeure va dire. Le travail de synthèse peut commencer à partir de là, commence pas à partir de la doctrine de centaines de pages, résumé de décision, article. Fait que là, après ça, tu arrives à l'examen puis tu peux plus performer.
Ouais, ça donne comme un cadre sur quoi t'appuyer pour toi faire tes réflexions puis toi noter ce que t'as retenu ou les enjeux qui ont été soulevés. Je pense que moi, ce qui m'a découragée, c'était que il y a beaucoup de doctrines que c'est lourd.
Hey.
Puis moi, j'ai pas envie de lire des trucs lourds, fait que j'y lisais juste pas. Mais si je peux souligner une doctrine que j'adore, qui est peut-être pas la plus scientifiquement poussée, c'est celle à Maître Lévesque.
Oh mon Dieu, merci. Voyons. J'espérais tellement que tu disais ça.
Honnêtement, je lirais le précis pour le fun.
Ben oui.
Comme, incroyable. T'sais,
et là, j'ai écrit ma photo de finissant avec le précis de l'obligation, je te jure.
Oh mon Dieu, j'adore.
Une Bible.
En tout cas, doctrine incroyable, lecture de table de nuit pour tout le monde.
Ouais.
En plus, la matière là-dedans, c'est la plus intéressante. C'est la meilleure. Fait que ouais.
Droit des obligations, droit des contrats, responsabilité civile.
OK, prochaine... Les bacs avec les notes courbées, ça nuit à la réussite et au développement des étudiants.
Est-ce qu'on peut expliquer avant de commencer, c'est quoi un bac courbé?
Commençons par la définition.
Parfait, définition. Donc, pour ne pas la nommer, à l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas, ce qui arrive, c'est que, par exemple, si un examen était plus facile et que toutes les notes sont entre 80 et 100, bon, ben la personne qui a eu 100% va garder sa bonne note parce que c'est la meilleure note de la classe. Mais la personne qui a eu 80, même si elle a eu une bonne note de 80, comme c'est la personne qui a eu la pire note de la classe, on va descendre sa note de 80 à, mettons, 50, qui est la note de passage, pour vraiment faire une distinction entre les bons et les pas bons. Parce qu'il arrive, c'est qu'en droit, la majorité des gens, c'est des gens qui ont toujours eu des bonnes notes. Fait que, tu sais, c'est des gens qui sont bons à l'école. Fait que souvent, les notes sont comme dans le même moton. Donc, pour distinguer, on va faire, mettons, 10 % de la classe doit avoir entre 90 et 100, 70 % de la classe doit avoir entre B et A, puis là, après ça, tu sais, on descend. Fait que même si tu as eu une pas pire note, ça se peut que tu te fasses shifter ta note parce que tout le monde a eu une meilleure note que toi, ce qui fait que ta note dépend de la note des autres. Est-ce que ça...
Ouais.
C'est pas mal ça.
Moi, je suis d'accord avec le hot take parce que jamais... J'aurais réussi mon bac comme je l'ai réussi en ce moment si, à chaque instant, je devais me dire que les gens avec qui je suis devaient avoir moins bon que moi pour que moi, je réussisse.
Vraiment.
Moi, en droit, ça m'était jamais arrivé avant, okay? Même en génie, peu importe, Sciences Po, même au cégep, tu sais, on entendait tout le temps là, les profs dire « Ah oui, les études disent que l'étude en groupe, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre. » Là, j'étais comme « Non, moi, j'ai essayé d'étudier avec du monde, je comprends même pas comment on ferait. » En droit, depuis ma première session, je n'étudie que en groupe. Honnêtement, je ne jure que par ça. Puis, jamais ça m'aurait autant été possible. Puis, je me serais autant faite d'amis. Puis, tu sais, j'aurais autant eu d'aide de mes pères. Puis, que moi, je les aurais aidés aussi. Si on devait toujours se dire, tu sais, le droit, c'est déjà compétitif. Là. Le monde le sent, même si nous, on n'est pas courbés.
C'est ça.
On dirait que l'idée de me dire que les autres doivent me nuire pour les aider eux-mêmes, ça aurait vraiment pas été un climat pour ma réussite. 100%
d'accord. Puis, tu sais, nous, je pense que. À l'Université Laval, nous, en tout cas, notre cohorte, à moi puis Sam, là, tu sais, c'est comme ça, je vais pas dire qu'on se vante de ça, mais tu sais, on dit au monde que nous, genre, c'est tellement collaboratif, puis comparé à ailleurs, c'est comme, il y a nulle part que c'est autant collaboratif, puis tout le monde s'aime, puis tout le monde s'entraide, puis c'est tellement vrai. Puis je pense qu'une des raisons, c'est parce que si tout le monde a 100%, c'est juste vraiment nice parce que tout le monde a eu 100%, mm-hmm. puis je m'en fous que tout le monde ait une bonne note, parce que ça nuit pas à ma cote.
On est tellement passé au travers. T'sais, on va s'appeler la cohorte martyr. Là. Il nous est tout arrivé. Hey, COVID, j'en parle donc avec COVID. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Mais non, mais c'est vrai, là, on regarde les derniers mois. On a comme passé à travers de pas mal de trucs ensemble. On a appris tout à distance. On a eu le petit groupe d'études pour notre bac amusant qui a fait en sorte qu'on se partageait des notes. On a passé à travers droit constitutionnel, charte ensemble. Puis on est content pour les autres dans leur succès. Fait que ça fait en sorte que cet esprit de collaboration-là fait en sorte que l'atmosphère est beaucoup moins toxique, plus avantageuse. En tout cas, plus avantageuse à se développer.
Mais justement, le petit groupe, là, moi, je pense pas que ça aurait été possible si nos notes avaient été courbées.
Mais non,
ça parce que jamais. Moi, si j'ai fait mes beaux tableaux de résumé, ben je vais les garder pour moi parce que je vais pas les donner aux autres pour que les autres aient des meilleures notes que moi. Puis que dans le fond, mes tableaux, ils ont servi à ce que ma note soit plus mauvaise parce que du monde a eu des meilleures notes que moi, voyons. Tu sais, je pense que c'est la réaction normale que la plupart des gens auraient eue, à part pour tes deux, trois amis que t'es vraiment proche. Là.
Ouais. Ça faisait en sorte que t'étais vraiment content pour le succès de l'autre. Là. Puis je pense que ça reflète aussi la pratique du droit. Il y a personne qui pratique, en tout cas en cabinet, puis en contentieux probablement, tu sais, c'est des équipes.
Ouais.
C'est le travail d'équipe. Les professionnels, les entreprises, les cabinets valorisent ça. C'est le travail d'équipe. Fait que pourquoi pas commencer à l'apprendre au bac? Tu sais, c'est... Même les professeurs, les sommités, la Cour suprême, des opinions dissidentes. Fait qu'à un moment donné, de discuter puis de travailler en équipe, ça fait en sorte que ça reflète la pratique. Fait que commençons au bac. Là.
Puis, je pense que souvent, l'argument qu'ils disent, c'est que si c'est courbé, le monde, ils ont comme plus tendance à se forcer ou à se dépasser, puis ils sont plus stressés. Mais on dirait que moi, ça ferait juste me décourager.
Oh, moi aussi.
Comme ouais, à quel point... Tu sais, de me dire, hey, j'ai full bien compris mon cours, justement. J'ai eu 87, je suis full contente. Finalement, mon 87, c'est genre un C+. Tu sais, on dirait que c'est décourageant.
Ouais, vraiment. Ouais.
Je serais pas la même personne dans un bac courbé.
Ah non.
Moi non plus, je peux l'imaginer.
Mais bon. C'est pas notre cas.
Non. OK, la prochaine, on en a un peu parlé tantôt, là. On revient sur le sujet de l'amour. Dater des gens dans ton propre bac, c'est la pire idée que tu peux avoir. Mais le sang, j'espère
c'est pas
que
la pire idée, là. Non, je vais vous laisser parler, les filles.
Moi, je pense que ça dépend t'es quel genre de personne. Je pense que ça peut très bien aller comme Sam. Puis je pense que pour d'autres personnes, dont certains amis, on les salue, c'est plus difficile. Puis selon, tu sais, veux pas, là, quand tu dates ou quand t'es en couple, là, soit... ça va bien, puis tu restes avec cette personne-là, soit ça finit. Puis quand ça finit, ça se peut tout le temps que ça finisse mal.
Mm-hmm.
Puis le monde du droit de base, c'est un petit monde. Mais le monde du droit au bac, à l'Université Laval, c'est
un très petit monde.
C'est littéralement là, une mini tribu. Mm-hmm. Tu sais, genre, tu fais le tour rapidement. Là.
Ouais.
Fait que je pense que c'est touché, puis que c'est à faire. Si tu le fais, faut que tu sois conscient de la situation.
Il faut que tu le fasses avec respect.
Ouais.
Hein? C'est question de respect, question de communication, transparence, puis à partir de là, advienne que pourra.
Ouais. Mais ça dépend, mettons, d'été pour te faire un chum blonde ou juste d'été parce que tu veux comme, tu sais, papillonner, mettons. Mais moi, j'aurais peur, mettons, avoir un chum ou une blonde en, ben, endroit. Mettons, je voudrais pas que ce soit dans la même année que moi parce que je serais comme un peu compétitive, on dirait. J'aurais peur que mon chum ait toujours des meilleures notes que moi ou que, je sais pas, on dirait que ça me complexerait, mettons, que mon chum soit meilleur à l'école que moi. Fait que je me dis, il faudrait peut-être que, en fait, qu'il soit plus jeune dans mon année. Comme ça, je pourrais pas me comparer aux autres qu'il y a eu, je sais pas.
Moi, je pense que c'est aux opportunités. Parce que, genre, ma personnalité, je pense que je suis quand même carriériste. Dans le sens que c'est important pour moi ce que je vais faire de ma vie puis où je vais me rendre. Puis, veux pas pour ça, il y a certaines opportunités que je dois saisir et obtenir. Mais de me dire que si, par exemple, pour une opportunité, ça doit être moi ou la personne avec qui je suis en couple qui l'a, on dirait que c'est pas une situation que j'aimerais.
Ouais, c'est vrai.
Tu sais, parce que autant si c'était pas une opportunité qui m'intéressait, ben là, je serais full contente pour l'autre personne. Mais veux pas, si moi, j'ai envie d'avoir l'opportunité, ben je vais pas vouloir que l'autre personne l'aille.
Ça...
Ça sent le shark.
Non, mais ça touche ton ego là. Ça toucherait ton ego là, justement, de... Que ton chum, dans le fond, c'est ça que tu dis, là, que ton chum aille une opportunité que toi, tu voulais, puis que...
Ben oui, mais pas parce que c'est mon chum, juste parce qu'une autre personne l'aurait eu, mais en plus, c'est la personne avec qui je serais en couple. Fait que, on dirait que c'est beaucoup plus dur de te réjouir pour la personne avec qui t'es si l'opportunité que lui a, c'est une opportunité qui t'a été enlevée.
Ouais, je suis un peu d'accord. Ouais. Ben, ça revient un peu à ce que je dis pour les notes, dans le fond, que j'aurais peur. C'est ça, je pense que c'est comme trop compétitif. Ça créerait des tensions, moi, je pense.
Puis moi, je suis encore autour du fait qu'on n'est pas assez pour... Tu sais, que ça soit très smooth comme dating life. On s'entend, là, le cercle est petit. Le cercle de gens qui, par exemple, participent aux événements et sont actifs est encore plus petit. Fait que veux pas, tu sais, on dirait que ça peut rapidement devenir lourd.
Ouais.
J'ai pas vécu cette expérience-là. Ben, j'ai de la misère de me mettre dans cette situation-là, mais...
T'sais, moi, je l'ai pas vécu directement, mais je l'ai vécu par l'entremise d'un ami. Puis honnêtement, c'était lourd. Genre, tu sais, à un moment donné, si genre, tu te watches pas, pis, mais c'est, ça revient à ce que Sam te dit, là, c'est un peu comme y aller avec respect, puis juste réfléchir à ce que tu fais, parce que veux pas, le monde autour de toi, c'est le monde avec qui tu passes les 3 prochaines années, là, que tu le veuilles ou non.
Et plus, là, parce ouais. qu'après ça, c'est eux, carrière, c'est ça.
T'sais, ça reste un petit monde.
Ouais.
Good. Ben écoutez, c'est ce qui complète toutes les opinions qu'on avait.
C'est terminé.
Oui, déjà. Ça passe vite, hein?
Ça passe vite.
Mais écoutez, je veux vous remercier encore une fois d'avoir accepté mon invitation et de vous être prêté au jeu.
Et merci à toi. Merci de l'invitation.
Oh, merci. Puis ben, pour nos auditeurs, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Droit de parole.